Le temps de la miséricorde divine. Voici une conférence du père Martin Prader, prêtre du diocèse de Paris et membre de la communauté de l'Emmanuel. Une conférence enregistrée lors d'une rencontre de la communauté de l'Emmanuel à Dax le 16 octobre 2022. Le temps de la miséricorde divine, le père Martin Prader.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, j'ai 3 quarts d'heure pour traiter de ce sujet qui est immense. Je vais essayer de le faire en ne suivant pas trop mes notes pour éviter de rentrer dans les détails. Et donc je choisis comme thème de cet enseignement le temps de la miséricorde. C'est une expression du pape François qu'il a utilisée assez peu de temps après son élection lors d'une retraite de carême prêchée aux prêtres de Rome, où il a dit ceci: nous vivons dans un temps de miséricorde, depuis au moins 30 ans jusqu'à aujourd'hui. 30 ans, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Est-ce qu'il faisait référence à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie par le pape François, par le pape Jean-Paul II, pardon, le 25 mars 1984, qui était la réalisation de la demande faite à Fatima par Jésus et par Marie, et qui a obtenu au monde un certain temps de paix? On peut considérer que ce temps de la miséricorde, c'est le temps qui nous est donné par Marie, qui est donné au monde pour se convertir avant la venue du Christ en gloire. Je dirai pourquoi tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que dans ses révélations à Sainte Faustine, Jésus dit que c'est la dernière planche de salut pour l'humanité et que le monde ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers sa miséricorde. Donc dans son allocution, le pape François faisait référence justement à Sainte Faustine et à Saint Jean-Paul II pour dire que nous vivions ce temps particulier de l'histoire de l'Église et du monde, qui est le temps de la miséricorde. Alors, pour expliciter cela, je vais aborder cet enseignement en 3 temps, parler tout d'abord de Sainte Faustine, du message qu'elle a reçu, puis de Saint Jean-Paul II, dont toute la vie de prêtre, puis d'évêque, finalement de pape, a été marquée par ce message, et enfin du pape François lui-même. Et tout d'abord, qu'est-ce que ce mot de miséricorde que nous entendons souvent, mais dont nous peinons finalement à définir exactement le sens? En latin, hein, miséricorde, ça vient de misère, la miséria, un cœur qui se penche sur la misère de l'autre. Mais en hébreu, le terme rechem ou rahamim au pluriel désigne carrément le sein maternel du Dieu. Une mère, Dieu est comme une maman qui ne peut se résoudre à abandonner son enfant qu'elle a porté 9 mois dans son sein, même si cet enfant l'a trahi. Également le mot de chesed, ça va, vous m'entendez? Oui. Le mot de chesed qui lui désigne davantage cet aspect masculin, cette fidélité inconditionnelle de Dieu à son alliance et à son amour pour son peuple, même si ce peuple lui est infidèle. En tout cas, s'il fallait donner une définition un peu plus conceptuelle de cette miséricorde, on pourrait dire cette capacité qu'a Dieu de dépasser tout en assumant sa justice par son amour surabondant, en retournant en quelque sorte sa colère contre lui-même, pour reprendre une expression du pape Benoît XVI. Encore, cette capacité qu'il a, en vertu de sa toute-puissance, de transformer le mal en bien. Comme le dit Paul, tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Parce que Dieu, dans sa toute-puissance, qui n'est rien d'autre aussi que sa miséricorde, est capable même de transformer les épreuves, et même notre péché, s'il est sincèrement offert à Dieu, avec le repentir qui s'impose, en bien, dès lors que sa miséricorde s'en souvient. Ou encore, cette capacité qu'a Dieu de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de notre condition d'esclave à la condition filiale d'enfant de Dieu, pour le temps et pour l'éternité. Que dire encore? Cette capacité que Dieu est, puisque d'une certaine façon on peut dire que Dieu est miséricorde, c'est le pape Benoît XVI qui l'a dit, la miséricorde est le nom de Dieu, cette capacité d'amour inconditionnel pour sa créature et en particulier pour ses enfants, les hommes que nous sommes, malgré nos limites, malgré notre péché, malgré nos nombreuses trahisons, Dieu ne peut pas cesser de nous aimer. même si cette miséricorde doit toujours être en même temps pensée avec sa justice. Les deux mains de Dieu dans la tradition juive, sa miséricorde, sa justice, un attribut plutôt maternel, un attribut plutôt paternel, les deux mains de Dieu, qui sont toujours à prendre ensemble. Il n'y a pas de miséricorde sans justice et de justice sans miséricorde. Mais comme le dit toujours Saint Plotine, la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Alors, ce message de la miséricorde, il est au fond celui de toute la révélation, des origines jusqu'à son terme, de la Genèse à l'Apocalypse. Au fond, la révélation n'est que la révélation d'un Dieu d'amour et de miséricorde qui aime à pardonner, qui aime à faire grâce, et qui non seulement nous pardonne, mais veut nous élever jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu, nous faire partager sa béatitude. Et donc, en ce sens, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ce thème de la miséricorde a été donné d'une façon nouvelle au XXe siècle, d'abord à travers l'enseignement de la petite Thérèse, et ensuite à travers les révélations de Sainte Faustine, dont je vais parler maintenant, et reprise par le pape Jean-Paul II dans tout son ministère, et ensuite par le pape Benoît XVI, mais surtout le pape François aujourd'hui. Alors, je commence avec Sainte Faustine. Sainte Faustine était issue d'une famille très pauvre, d'agriculteurs, elle savait à peine lire et écrire, mais elle sentait un appel à la vie religieuse depuis l'âge de 7 ans. La difficulté, c'est qu'en Pologne, à l'époque, pour pouvoir être religieuse, il fallait apporter une dot à la congrégation qui voulait bien vous accueillir, ce qu'elle était incapable de faire. Et donc, elle a eu beaucoup de mal à trouver une congrégation qui l'accueille, et finalement, elle a été prise comme sœur converse chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie, une congrégation issue d'un charisme français, celui de Mère de l'Amoureuse de Bordeaux, la Miséricorde de Bordeaux, vouée au relèvement des filles qui se prostituaient au début du XIXe siècle, mais encore après, bien sûr, sur le port de Bordeaux, à cause de la misère. Et donc, sœur Marie-Faustine, eh bien, a été accueillie, et comme converse, c'est-à-dire pour des tâches très humbles, de jardinière, cuisinière, portière, et elle n'a pas eu la vie facile, en fait. Et pendant son noviciat, elle a beaucoup souffert, et un jour, elle a eu, en songe, une vision de Sainte Petite Thérèse, en 1925, après que celle-ci ait été canonisée. Et Thérèse lui dit, ne crains pas, moi aussi j'ai beaucoup souffert. Et dans son rêve, Faustine lui répond, mais je ne crois pas que tu aies beaucoup souffert. Et Thérèse dit, si, je suis Thérèse de Lisieux. Ah, est-ce que je serai sainte comme toi? Oui, tu seras sainte. Est-ce que je serai canonisée comme toi? Oui, tu seras canonisée. Et quelques jours après, comme pour lui prouver que dans ce cas, songe n'est pas mensonge, elle aura un signe qui confirmera ce que Thérèse lui a dit dans son rêve. Et donc il y a un lien très étroit entre Faustine et Thérèse. Et par la suite, Faustine aura une vision prophétique de la manière dont Dieu allait la conduire jusqu'à la canonisation. Elle s'est vue à l'entrée d'une église remplie de prêtres, de religieuses, et sur l'autel il y avait sa statue. Et dans sa vision, elle voyait qu'il fallait qu'elle avance par l'allée centrale jusqu'à l'autel. Et curieusement, dès qu'elle se commence à s'avancer par l'allée centrale, voilà que ceux qui sont dans l'église la frappent, lui envoient des objets au visage, se moquent d'elle, la giflent. Et plus elle avance, plus elle reçoit des coups, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autel. Et là, tout le monde se tourne vers elle pour l'implorer. Et elle comprend que c'est grâce à tous ceux-là qui sont dans l'église qu'elle est arrivée si vite à cette place, qui est la sainteté, qui est la canonisation. Et qu'elle peut désormais prier pour eux, pour qu'ils la rejoignent. Un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien, pour que je puisse venir en aide à un peuple nombreux. Et c'est de fait ce qu'elle a vécu durant sa courte vie. Elle a été très critiquée et contredite, à cause même des révélations qu'elle a reçues pour le monde entier, un peu comme Sainte Marguerite Marie que nous fêtons aujourd'hui. Mais justement, elle a dû entrer dans le chemin qu'elle avait enseigné au monde, celui du pardon notamment. Et par la voie du pardon, c'est la voie royale pour être configurée à Jésus miséricordieux. Elle est morte à l'âge de 33 ans, comme Jésus, en tant que très grande sainte, qui allait illuminer non seulement le XXe siècle, mais même le XXIe. Alors, c'est à partir de... Alors, juste pour dire que cette spiritualité de la miséricorde, elle l'a vécue au quotidien avant de recevoir ses révélations. Mais à la manière de Mère de l'Amoureux, c'est-à-dire de façon pratique, mystico-pratique. La miséricorde, c'est une pratique à travers les œuvres de miséricorde. Et à Cracovie, lorsqu'on visite le couvent où elle est décédée, près du sanctuaire aujourd'hui de la Divine Miséricorde, eh bien, on montre une cloche, la cloche du monastère, comme une relique. Parce qu'un jour, un mendiant a sonné à cette cloche, et Faustine est allée lui ouvrir, et ce mendiant lui a demandé à manger. Elle est partie à la cuisine, lui a apporté à manger, et qu'après qu'il ait mangé, le mendiant l'a remercié, en lui disant, « Je te remercie, je suis Jésus, je suis venu du ciel, parce que là-haut, on m'avait parlé de ta charité, je suis venu en faire l'expérience, et je ne suis pas déçu. Et maintenant, je retourne au ciel. » Donc, elle vivait de manière pratique cette spiritualité jusqu'à ce qu'en 1931, Jésus se manifeste à elle et lui demande d'instituer une fête en l'honneur de sa divine miséricorde. Alors, je vais relire ce que dit Jésus. « Ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux dans mon cœur. » Il demande que cette fête ait lieu le dimanche qui suit le jour de Pâques, l'octave de Pâques. Donc, ce qu'il y a de plus solennel dans toute l'année liturgique, ce dimanche du dimanche, où nous célébrons la résurrection du Seigneur. Vous savez que dans la liturgie, comme dans la Bible, le huitième jour accomplit le premier. Si Jésus est ressuscité le jour de Pâques, c'est pour que nous puissions ressusciter aujourd'hui dans les eaux du baptême et à la fin des temps, à la résurrection des morts, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Le jour de Pâques, le huitième jour après Pâques, c'est le dimanche in albis, le jour où les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques revêtent le vêtement de leur baptême pour manifester qu'ils sont ressuscités avec le Christ. Et ce jour-là, à travers le message de Sainte Faustine, tous ceux qui se confessent et communient reçoivent la rémission totale de leurs péchés, comme d'une certaine façon une possibilité qui leur est donnée à eux aussi de revêtir la robe de leur baptême pour pouvoir être ressuscités pleinement avec le Christ, devenir à la suite du Christ, icône de la divine miséricorde. Donc c'est un jour particulièrement solennel, celui que les Orientaux appellent le jour de Thomas, parce que dans la tradition byzantine, on vénère particulièrement cet apôtre qui a eu l'audace d'approcher la main du côté vivifiant du Christ et qui n'a pas eu cette main brûlée par le feu immatériel de la divinité du Christ, de son cœur brûlant d'amour. Thomas, qui est l'apôtre incrédule, qui normalement devait croire sur le témoignage des autres, c'est pourquoi il est notre jumeau, mais qui n'a pas cru, bon, pour des raisons que nous ignorons, on peut imaginer plusieurs hypothèses, peut-être était-il trop rationnel, on dit que c'était un architecte, qui avait besoin de signes pour croire, peut-être aussi parce qu'il était jumeau, avait-il un complexe, et a-t-il été blessé de voir que Jésus s'était manifesté aux 10 autres, mais pas à lui, et qu'il a eu besoin d'expérimenter cet amour personnel de Jésus pour lui. Quoi qu'il en soit, même s'il n'était pas nécessaire d'avoir ce signe, puisqu'il était appelé comme nous à croire sans voir sur le témoignage des apôtres, mais il a demandé ce signe et Jésus le lui a donné. Et là, en contemplant le côté du Christ ou en le touchant, selon les interprétations, eh bien, il a cru. Et non seulement ça, mais il a professé la plus belle profession de foi du Nouveau Testament qui résume toute la foi de l'Église, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et non seulement ça, mais il est devenu le plus missionnaire des apôtres qui a évangélisé pratiquement toute l'Asie. En passant par la Syrie, où on vénère la porte de Thomas, l'Irak, qui revendique Thomas comme le fondateur de l'Église d'Orient. J'ai rencontré un évêque, l'évêque de Kirkouk, qui m'a dit que dans son diocèse, il y avait le village de celui qui a touché. On vénère la grotte où Thomas aurait enseigné ses 6 disciples, puisque selon cette tradition, les apôtres n'avaient que 6 disciples pour ne pas s'égaler au maître. Ensuite, par l'Iran et le Pakistan, il est arrivé en Inde, après avoir construit un palais, il a fondé 7 églises au Kerala, sud-ouest de l'Inde, qui sont encore aujourd'hui des lieux de pèlerinage, et c'est tout à fait vraisemblable, puisque les archéologues disent que sur ces 7 lieux, il y avait au 1er siècle des communautés juives. Donc il est vraisemblable qu'un apôtre qui est passé par là ait voulu aller sur ces lieux, prêcher d'abord à ses frères juifs la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Puis de l'autre côté, il est parti vers le sud-est et il aurait été, selon la tradition indienne, transpercé d'une lance par un brahman. Et donc configuré au Christ dans sa vie et dans sa mort, devenu justement icône de Jésus miséricordieux. Et à Mayapur, à côté de Chennai, on a une très belle basilique en son honneur, où on garde les reliques, les ossements de Thomas, avec la pointe de lance qu'il a transpercée. De nouveau, c'est assez vraisemblable, parce que les archéologues disent que ce tombe date du 1er siècle. Certains disent même, selon les sources irakiennes et indiennes, et selon aussi des travaux récents, que Thomas aurait même pu peut-être aller jusqu'en Chine, par la route de la soie maritime qui de Chennai conduisait jusqu'à Kongmungchan. Je n'ai pas besoin de vous situer, vous connaissez tous par cœur Kongmungchan, n'est-ce pas? Mais ça reste de l'ordre d'une hypothèse, mais pourquoi pas, puisque Jésus avait demandé aux apôtres d'aller jusqu'au bout du monde. Pourquoi, s'il savait constater qu'il y avait des frères juifs au 1er siècle dans ces régions, pourquoi n'aurait-il pas voulu leur annoncer la bonne nouvelle? Toujours est-il qu'il est l'apôtre de la miséricorde, mais aussi de l'Asie, peut-être donné d'une façon spéciale à ce troisième millénaire que le pape Jean-Paul II a voulu comme millénaire de la miséricorde et de l'évangélisation de l'Asie. En tout cas, donc, c'est ce jour-là qui est choisi pour le jour de la miséricorde. Thomas est un adorateur du cœur de Jésus, comme saint Jean, mais davantage que saint Jean, si je puis dire, a une relation d'amitié avec le Christ et qui devient le consolateur du Christ par rapport à la trahison de Judas et par rapport à la nôtre, eh bien, à la croix, eh bien, Thomas est plutôt celui qui est témoin de cette miséricorde, dont il est lui-même l'objet d'abord, à travers cette manifestation du Christ, et qui va proclamer jusqu'au bout du monde, à travers sa vie d'apôtre. Et donc, dans la dimension de la miséricorde, il y a, j'allais dire, une extension maximale du culte du cœur de Jésus. Un grand jésuite qui a beaucoup travaillé sur le thème du cœur de Jésus, disait que c'était l'inculturation pour aujourd'hui de ce thème, qui en déploie notamment la dimension trinitaire, qui est explicite, j'allais dire, dans toutes les prières enseignées à Sainte Faustina, adressées au Père, par le Christ miséricordieux, par le fleuve de l'Esprit Saint. Mon Dieu, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, prière eucharistique, pour la rémission de mes péchés et de ceux du monde entier. Cette extension extraordinaire du culte du cœur de Jésus. Voyez au passage cette image demandée à Sainte Faustine pour cette fête, à la vénération à laquelle est attachée une grâce particulière, cette image qui fait un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est vraiment d'actualité dans ce drame que vit aujourd'hui l'Ukraine. Vous savez que Jean-Paul II était polonais et a toujours œuvré pour l'unité des deux poumons de l'Église. Lui qui était en Pologne prédestiné à cela, parce que la Pologne est une enclave catholique en terre slave. Et en fait, cela se retrouve dans le message de Sainte Faustine. Puisque, on pourrait dire que cette image fait le pont entre la tradition orientale des icônes et la tradition occidentale du cœur de Jésus. Dans la tradition orientale, on n'a jamais eu besoin de représenter le cœur de Jésus. Parce qu'au fond, les orientaux, plus que nous, ont l'intelligence du cœur et du symbole, n'ont pas eu besoin que Jésus montre son cœur pour comprendre que c'était là que se jouait l'essentiel. Comme dans l'évangile de Jean d'ailleurs, le cœur n'est jamais nommé, il est partout désigné, mais jamais nommé. Parce que par définition, le cœur ne se montre pas. Il est caché en humble place, dans notre poitrine, comme le soleil intérieur, qui doit illuminer tout notre être, et bien sûr, illuminer aussi celui des autres. Et donc, ici, le cœur n'est pas montré, mais désigné simplement, par Jésus à travers sa main gauche. Mais en revanche, il est clairement montré quand même comme la source lumineuse du tableau, comme le centre. Et là, ça rejoint la tradition de parémonial et plus largement du cœur de Jésus. Et Jésus nous bénit. Il nous bénit, nous qui l'avons transpercé, comme les apôtres le jour de Pâques et Thomas le huitième jour après Pâques, nous qui avons douté, qui n'avons pas cru en sa résurrection, qui ne sommes pas allés annoncer sa bonne nouvelle aux gens. Il nous bénit, il nous pardonne, il nous donne sa consolation, il nous envoie en mission. Nous qui sommes les pépés, pauvres petits pécheurs pardonnés. La carte d'identité du chrétien et du prêtre aussi. Et Jésus, voyez, vient à notre rencontre, comme il est venu à la rencontre des apôtres, et en même temps, il est sur un fond sombre. Au passage, cette image que vous avez ici, c'est une représentation qui date de la, je crois, de la Seconde Guerre mondiale, que Saint-Faustine n'a pas connue. Celle qu'elle a connue, c'est une image plus sombre et plus belle, selon moi, qui a été peinte à l'initiative de son père spirituel, le père Soposco, qui a même posé pour tenir la place du Christ, et qu'elle a vue. Mais elle a pleuré en voyant l'image, en disant « Ah, Seigneur, qui te prendra aussi beau que tu es ?» Et Jésus lui répond « Mais la valeur du tableau ne repose pas dans la qualité du pinceau, mais dans la grâce que j'y attache. » Ça rejoint un peu la tradition des icônes qui sont écrites dans la prière et dans le jeûne et dont la grâce est liée à la bénédiction de l'Église, voyez, davantage qu'à la qualité esthétique de l'icône. Donc si vous n'aimez pas ce tableau, ne vous inquiétez pas. Sainte Faustine peut-être pleurait si elle le voyait aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais n'empêche qu'il y a une grâce à le vénérer. C'est Jésus qui le dit, on peut lui faire confiance. Donc Jésus vient à notre rencontre, il est sur un fond sombre. Alors quel est ce fond sombre? Et on peut penser que ce sont les ténèbres de notre monde et les nôtres aussi, de nos cœurs, hein, que Jésus vient traverser à travers sa miséricorde, comme le dit Saint Jean. Il est venu, les ténèbres ont voulu l'arrêter, mais il est venu dans notre monde et les ténèbres, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'arrêter. Les ténèbres de nos cœurs, du non-amour, de l'incroyance, de l'infidélité n'ont jamais arrêté la miséricorde de Dieu. Il est la lumière qui luit dans nos ténèbres, dans les ténèbres de notre monde. Et en fait, ce message, en réalité, c'est un message d'espérance au fond de crise, en fait. Quand on voit à quel endroit Faustine reçoit ce message, d'abord à Vilnius, puis à Cracovie, ce sont des lieux, en fait, qui seront malheureusement liés à des drames épouvantables pendant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite encore pendant le communisme. Vilnius, quatre communautés, ukrainiennes, juives, russes et polonaises, et des massacres épouvantables pendant la Seconde Guerre mondiale. Cracovie, à 70 km d'Auschwitz, à quelques kilomètres de Nowa Huta, qui était la ville que le pouvoir polonais a voulu comme la vitrine du régime communiste, la ville du régime sans Dieu et contre Dieu. Ce sont des villes qui ont été associées aux grands drames du XXe siècle, à ces grands totalitarismes qui engendraient de grands génocides. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a connu 6 millions de morts, dont 3 millions de catholiques et 3 millions de juifs. C'est dans ce contexte dramatique que Jésus donne ce message, avec une tonalité d'ailleurs très explicitement eschatologique. Je me permets de le souligner. Jésus dit à Sainte Faustine, tu vas préparer le monde à ma dernière venue. Il ne lui dit pas seulement une fois, mais plusieurs fois. J'aime particulièrement la Pologne, et si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté. D'elle sortira l'étincelle qui préparera le monde à ma dernière venue. Et quand le pape Jean-Paul II a été élu, beaucoup de Polonais se sont dit, ben voilà l'étincelle. Et le pape Jean-Paul II le savait, quand il est venu en Pologne pour son dernier voyage en 2002, il a dit, l'étincelle, c'est le message de la miséricorde et la grâce qui est attachée. Il faut répandre ce feu de la miséricorde dans le monde entier. Donc il a reconnu que c'est vraiment l'ultime message que Dieu donne au monde avant la venue du Christ dans sa gloire. Et ça, il l'a dit déjà il y a à peu près 90 ans à Saint-Faustine. Et personnellement, mais je ne vous oblige pas à le croire, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même un lien aussi avec Jean-Paul II, qui est mort en la fête de la miséricorde que lui-même avait instituée et qui, on pourrait dire, pour le monde entier, a été quand même lui aussi comme l'image de la miséricorde du Père, icône de la miséricorde dans son enseignement mais aussi dans ses gestes. Voilà, il y a d'autres phrases du même genre. Je ne peux pas toutes les lire. Ça, c'est simplement que la Vierge Marie aussi a encouragé Sainte Faustine en lui disant « J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra non comme Sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, comme ce jour est terrible! Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui. Parle aux âmes de cette grande miséricorde tant que c'est le temps de la pitié. N'aie peur de rien, sois fidèle jusqu'à la fin, je compatis avec toi. » Imaginez que Saint Faustine savait à peine lire et écrire et que le Seigneur et Marie lui demandent de préparer le monde entier à la venue du Christ en gloire. C'est fou quand même. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en réalité, ce message a simplement pour but de rappeler à l'humanité tout entière qu'il y aura un jugement en réalité, qui sera précisément, qui portera sur la miséricorde reçue et donnée. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, ce n'est pas un scoop, mais il le rappelle au monde entier, comme pour nous dire cette urgence de la conversion, mais il le dit avec une infinie délicatesse. Quand il dit, dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé mes prophètes, mais aujourd'hui je ne veux pas punir l'humanité, mais je veux la guérir en la pressant sur mon cœur miséricordieux. Il se présente vraiment comme le Père des miséricordes, qui accueille, qui ouvre tout grand les bras pour accueillir une humanité qui s'est blessée en voulant se détourner de lui. Donc c'est l'ultime effort de Dieu pour ramener à lui cette humanité, pour dire que là où le péché abonde, la miséricorde surabonde. Et donc, à Sainte Faustine, Jésus lui enseigne non seulement à recevoir cette miséricorde avec la coupe de la confiance, cette prière, Jésus, j'ai confiance en toi, mais en être le témoin. Je reviens juste sur l'image. Donc, j'ai souligné cette présente question du Christ, mais j'ai dit que c'était aussi l'image de facture trinitaire. Est-ce que vous voyez le Père sur cette image? Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, sinon j'aurais pu proposer un chocolat pour celui qui m'aurait dit où était le Père, mais bon, on n'a pas le temps, je suis vraiment désolé. Mais Jésus dit qu'il me voit, voit le Père, vous êtes bien d'accord? Il est l'écho de la miséricorde du Père, donc en le voyant, nous voyons le Père. Mais Saint Jean nous dit quand même aussi, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique est vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et Saint Irénée commence en disant, le Père est l'invisible du Fils, comme le Fils est le visible du Père. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce mystère du Père, il nous dépasse tellement qu'il est comme figuré par cette obscurité autour du Fils. Vous voyez, Saint Jean de la Croix dit que Dieu est une nuit pour nous. Non pas parce qu'il manque de lumière, mais parce qu'au contraire, il est tellement lumineux, comme un soleil d'amour, de miséricorde, de justice, de bonté, de sagesse, de puissance et d'être, que pour nous, en ce monde, il reste une nuit. Une nuit comme une nuit d'aurore, mais traversée par une lumière très douce, qui est celle de l'amour, et celle que les saints ont découverte par la foi, mais sans voir Dieu. Marie n'a pas vu Dieu, et pourtant elle était en communion totale avec lui, dans la Trinité, mais elle a vécu par la foi, dans la charité. Et ainsi, elle a vu Dieu avec son cœur, voyez, mais pas avec son intelligence. Et même dans le ciel, nous ne verrons Dieu, mais nous ne le comprendrons pas. Comme disent les théologiens, nous le verrons tout entier, mais pas totalement. Parce qu'il dépassera toujours notre intelligence créée, même illuminée par la lumière de gloire. Mais il sera notre béatitude. Oui, là, nous le verrons. Et sur la terre, nous pouvons le contempler mystérieusement dans son Fils, en sachant qu'il restera pour nous un mystère inconcevable. Quand Faustine parle de la miséricorde, elle emploie toujours un vocabulaire négatif. Inconcevable, incommensurable, incompréhensible, infini, indicible, parce qu'effectivement, ce mystère-là, c'est le mystère même de Dieu qui nous dépasse. Nous ne savons que ce qu'il n'est pas, mais nous, nous ne savons pas ce qu'il est, parce que cela dépasse non seulement notre intelligence, mais même notre imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est quelque chose qui est déconcertant, le mystère de la miséricorde. Quand vous pensez que, justement, cette miséricorde, elle nous est donnée à l'heure de la croix, où apparemment Dieu se cache. C'est l'heure de la nuit, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de Satan. Mais c'est aussi l'heure de Jésus, de son amour porté jusqu'au bout. Et c'est l'heure de Marie, au pied de la croix. Qui par la foi va tenir debout, alors que son intelligence est broyée et son cœur blessé par un cœur de guerre de douleur, elle tient bon dans la foi, et ainsi elle écrase avec son Fils la tête du serpent, et elle nous prend, nous, les pauvres pécheurs, comme ses enfants, elle, la mère de miséricorde. Voici ton Fils, voici ta mère. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure où tout bascule, mais ça reste de nuit quand même, même s'il y a le sang et l'eau qui jaillissent du côté du Christ, comme source de lumière, ça reste quand même nocturne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais habité par cette lumière de la vie. Et justement, l'Esprit Saint est comme figuré par ces deux rayons qui rappellent le sang et l'eau, les sacrements qui vont vivre l'Église, l'Eucharistie et le baptême, qui de certaine façon exprime le mystère de l'Église, comme mystère de communion, de sainteté, d'amour, et aussi de purification, et parfois de souffrance aussi. Ça fait partie du mystère de l'Église. Mais qui au fond, qui est la manière dont l'Esprit Saint se donne aujourd'hui dans les sacrements, dans l'Église, et aussi sous sa forme pentecôtale. Eh bien, donc tout ça, c'est le mystère de Dieu Trinité, dont finalement la miséricorde est l'attribut principal. Le Père est le miséricordieux, le Fils est l'icône de la miséricorde du Père, et l'Esprit Saint, on pourrait dire, c'est la miséricorde en personne, du Père et du Fils, répandu dans nos cœurs. Et donc nous avons la mission d'être les instruments pour pouvoir la répandre dans le monde entier, pour la gloire du Père, c'est-à-dire la manifestation de son amour et pour le salut du monde entier. Alors, je ne peux que vous encourager à découvrir ce message de Sainte Faustine et cette très belle prière, je l'appelle la miséricorde, l'heure de la miséricorde, la neuvaine de la miséricorde, la litanie de la miséricorde. Ce sont des puits sans fond de sagesse divine. C'est d'ailleurs un aspect qui a conduit le Père Sopocco à croire à l'authenticité des messages. Comment une femme aussi inculte que Sainte Faustine a-t-elle pu écrire des méditations d'une théologie aussi profonde et juste? Toujours est-il que je passe à Saint Jean-Paul II, c'est encore combien de temps? Saint Jean-Paul II, donc, il arrive à Cracovie quelques mois avant la mort de Sainte Faustine, à l'été 1938, comme un jeune homme, il a 18 ans, avec son père, pour suivre des cours à l'université Jagellonne en philologie romane. Il ne connaît pas Sainte Faustine, mais il va apprendre très vite son existence par un de ses camarades qui deviendra cardinal. Et il va donc se mettre à son école. Un an après, c'est la guerre en Pologne, qui commence en Pologne. Et l'université est fermée. Et Jean-Paul II s'embauche comme ouvrier dans les carrières de pierre de chez Savet avant de travailler en usine, à un kilomètre du couvent de Sainte-Faustine. C'est la nuit. Le projet nazi était l'éradication de la Pologne, de ses élites, de sa culture, de son identité et même de son peuple. Jean-Paul II aurait pu sombrer dans la violence et le désespoir. Comme beaucoup de jeunes de son temps, il aurait pu prendre les armes. Il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il était un peu heureux, il était fils de soldat, il avait lui-même une âme de soldat, mais parce que Dieu lui a montré un autre chemin. À travers un humble mystique, un tailleur, du nom de Jan Tiranowski, qu'il a introduit dans la mystique de Jean de la Croix et de Grignon de Montfort. Et lui, par ailleurs, tous les soirs, venait prier dans la chapelle du couvent de Sainte-Faustine en sortant du travail. Ces trois saints convergent dans la contemplation du mystère de la croix et de Marie. L'heure, de, comme je disais tout à l'heure, l'heure de la croix, c'est l'heure de la nuit. Jean de la Croix est docteur de la nuit. Quand Dieu se cache, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, au contraire. Parfois, c'est là qu'il agit le plus, mais c'est de nuit. Pour parler comme Jean de la Croix, dans son poème sur le cantique spirituel. Et c'est l'heure de la foi, et dont Marie est la porteuse au pied de la croix, dans son cœur douloureux et immaculé. C'est donc l'heure de Marie. Tout le traité de la vraie dévotion de Grignon de Montfort se résume dans ce « Voici ta mère, voici ton fils ». Dès cette heure-là, cette heure de Marie, qui est l'heure de la croix, qui est l'heure de la miséricorde, qui est l'heure de Satan, mais aussi l'heure où Satan se trouve vaincu par l'obéissance et la foi de Marie à la croix. Eh bien, c'est cette heure-là où Jean est donné à Marie et Marie à Jean, et il prend Marie chez lui dans tous ses biens, comme on le dit dans la consécration à Jésus par Marie. Et c'est l'heure de la miséricorde. Tout se tient. Tout se tient. Et donc, il comprend qu'il y a un chemin d'espérance au cœur de cette nuit. Et lui-même, il le dira, pour la Pologne, dans ses heures très sombres du nazisme puis du communisme, le message de la miséricorde a été un message d'espérance. C'est tout sauf un message à l'eau de rose. C'est vraiment un message pour temps de crise. On pourrait dire un message apocalyptique, mais rempli d'espérance, comme le livre de l'Apocalypse lui-même. Jésus, j'ai confiance en toi. Au cœur de la nuit, j'ai confiance en toi. Je sais que tout contribue au bien de ceux que tu aimes, même les pires atrocités, si nous les remettons à ta divine miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Et de fait, la Pologne va porter ce message par sa vie, par son martyre, sous le nazisme et sous le communisme. Et Jean-Paul II, donc, va rentrer au séminaire. Au départ, il a voulu résister pacifiquement au nazisme, par la parole, par la culture, par la vérité, à travers le théâtre rhapsodique. Il était conscient que le totalitarisme est fondé sur le mensonge et que la manière de résister, c'est d'abord la parole, la proclamation de la vérité qui rend libre. Mais par la suite, à travers la découverte d'un saint de la miséricorde polonais, le frère Albert, saint du 19e, qui était comme Jean-Paul II, d'abord un homme très courageux, qui a perdu une jambe en luttant contre justement à l'époque les Russes ou les Allemands, en tout cas ceux qui ne voulaient pas l'indépendance de la Pologne, et qui après est devenu un des plus grands peintres de son temps, un génie on pourrait dire. Je ne peux pas vous montrer ici de ses plus belles images. Regardez frère Albert, l'étier au monde de frère Albert sur Internet. C'est une magnifique représentation de notre douleur. Donc un peintre de très grande valeur et en même temps mystique. Mais qui va rencontrer la misère à sa porte, à Cracovie, un soir où il s'était perdu et où il est tombé dans un asile d'accueil des SDF. Et là, il est saisi par la misère de ces gens. Et il ressent un appel à les suivre, à se faire l'un d'entre eux, clochard avec les clochards. Comme un prêtre de la communauté d'Emmanuel l'année dernière qui a choisi pour une année sabbatique de vivre dans la rue avec les clochards, comme un clochard. Et qui disait le plus difficile c'est quand les mémés viennent avec leurs chiens faire les besoins sur nos cartons la nuit. Mais qui a vécu cette année vraiment comme un appel de Dieu, voyez, à se faire l'un des leurs. Et c'est ce qu'a reçu frère Albert, qui a fondé un ordre de facture franciscaine pour vivre pauvrement avec les pauvres. Et le pape Jean-Paul II a canonisé frère Albert, et le pape Jean-François, 25 ans plus tard, l'a décrété le patron de l'Europe d'après le mur de Berlin. C'est donc notre saint patron à tous. Frère Albert, allez voir qui c'est. Allez lire la pièce de Jean-Paul II qui s'appelle « Frère de notre Dieu », vous allez tout comprendre. C'est la miséricorde vécue en acte. Il a compris à son école et à celle de Sainte-Faustine que l'amour est plus que la vérité, plus que la beauté, plus que l'intelligence, plus que la culture, que l'amour est tout. Et c'est ça qui l'a poussé à aller au séminaire, à devenir prêtre, puis évêque et finalement pape. Et toujours à l'école de la miséricorde, tout au long de son ministère, il a eu des initiatives magnifiques. Par exemple, en 1965, les évêques de Pologne ont fait une réconciliation avec les évêques d'Allemagne. Et je pense que Jean-Paul II devait être parmi ceux qui ont poussé dans ce sens. Et voyez, le fruit de cette réconciliation, c'est quand même magnifique de dire que Benoît XVI a été le bras droit de Jean-Paul II pendant tout son pontificat. On ne peut pas les dissocier. L'Allemagne et la Pologne, quand on pense à ce que c'était pendant la Première Seconde Guerre mondiale, c'est magnifique, le de la miséricorde. Et après, il devient pape, comme vous le savez, en ce jour, aujourd'hui le 16 octobre 1978, à la fête de Sainte Marguerite Marie et de Sainte Hedwige, princesse polonaise. Il va mourir le jour de la miséricorde, et tout son enseignement est à l'école de Sainte-Faustine. Sa première encyclique, Redemptor Hominis, la deuxième sur la divine miséricorde, qui est le plus beau texte écrit sur la miséricorde, dans le magistère des papes, et puis la quatrième encyclique sur l'Esprit Saint, qui présente comme celui qui à la fois révèle notre péché et nous en libère parce qu'il est la miséricorde de Dieu, justement. Et non seulement ses encycliques, mais sa vie devient une prédication vivante. Quand il est transpercé d'une balle sur la place Saint-Pierre, comme Jésus miséricordieux, il se précipite dès qu'il le peut dans la prison de son agresseur. Dont d'ailleurs la seule question sera, mais pourquoi vous n'êtes pas mort? J'ai pourtant bien tiré. Il était un tueur professionnel, il savait très bien ce qu'il avait fait. Et il ne comprenait pas pourquoi Jean-Paul II était encore vivant. Et Jean-Paul II lui a dit, mais une main a tiré, une autre a détourné la balle. Et l'année suivante, lorsqu'il a voulu justement déposer cette balle dans la couronne de la Vierge Fatima, pour la remercier pour sa protection miraculeuse, de nouveau, un prêtre espagnol s'est jeté sur lui avec un couteau pour l'assassiner, le poignarder. Il a été arrêté juste à temps par le service d'ordre de Jean-Paul II, qui désormais avait des gardes du corps, ce qui n'était pas le cas avant. Et quand vous voyez les photos ou les films, c'est simplement surréaliste. Vous voyez l'homme qui se précipite sur lui avec un couteau le jour anniversaire de son attentat. Et que fait en face Jean-Paul II? Il le bénit. comme j'ai été miséricordieux. C'est simplement incroyable. Moi, à l'époque, quand j'ai vu ça, j'habitais en Angleterre, j'avais pas la foi. J'ai vu la photo de mon jeune âge, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Comment il peut faire ça? Il était comme possédé par l'Esprit Saint. Vous voyez? Vraiment configuré à Jésus miséricordieux par l'Esprit Saint, pour le monde entier. Et donc, quand vous savez tout, la première partie de son pontificat a été sous le signe de Notre-Dame Fatima, dans sa relation avec le monde russe et polonais, qui a conduit finalement à la chute du mur de Berlin et finalement à la chute du communisme en 91. Mais la deuxième partie de son pontificat a été sous le signe de la miséricorde, avec la proclamation de la béatification de Sainte Faustine en 93, de sa canonisation en l'an 2000, de la promulgation de la fête de la miséricorde, l'ultime voyage en Pologne en 2002 où il a confié le monde et le troisième millénaire à la divine miséricorde, et finalement sa mort. À lui-même l'a dit, la miséricorde désigne l'image de mon pontificat. Je passe au pape François. Le pape François, pourquoi je ne parle pas de Benoît XVI? Parce que Benoît XVI, bien sûr, a souligné l'importance de ce message, mais il n'était pas au cœur de son enseignement. Il a davantage mis la notion de charité, ce qui d'ailleurs est un peu équivalent. Mais c'était vraiment le sens de sa première encyclique. Il a peu repris le terme de miséricorde, que l'on retrouve par contre dès le début du pontificat de Saint-Pape François, dans une de ses premières allocutions, et tout au long de son pontificat. Vous savez que l'expérience personnelle du pape François, ça a été justement de se sentir saisi par la miséricorde de Dieu, je crois à l'âge de 19 ans, lors d'une confession à son curé à Buenos Aires. À une époque où il avait une petite amie, il aimait danser le tango, il ne pensait pas du tout à devenir ni religieux ni prêtre, et là, il s'est senti saisi par la miséricorde de Dieu dans le sacrement de réconciliation. Et il va résumer ça dans sa devise, d'évêque puis de pape, le regardant avec miséricorde, il le choisit. Un commentaire de Bête de Vénérable sur la fête de Saint Matthieu, le jour où Dieu l'a appelé lui aussi à le suivre. Il a eu conscience que ce choix était un choix de pure miséricorde, qui n'avait rien mérité, mais qu'en revanche, il l'obligeait à être témoin par sa parole et encore plus par ses actes de cette miséricorde de Dieu. Alors, ça parcourt tout le pontificat de François, vous-même vous le constatez, mais je soulignerai ceci, c'est que le pape Jean-Paul II est avant tout un visionnaire, un prophète, un homme d'une intelligence vraiment exceptionnelle, sur tous les plans d'ailleurs, pas seulement sur le plan conceptuel, mais sur tous les plans esthétiques, relationnels, politiques, mystiques. Et justement, il a souligné surtout la dimension, j'allais dire, mystique du message de la miséricorde et ce primat donné à un amour inconditionnel, le pardon, qui est le signe, je dirais, de toute sa vie. Il a fait le choix de l'amour qui va jusqu'au pardon. Chez le pape François, c'est un autre aspect de la miséricorde qui est mis en lumière, mais qui ne se contredit pas du tout, celui de Jean-Paul II, c'est juste une insistance un peu différente. Il insiste beaucoup sur les œuvres de miséricorde. Mais encore une fois, c'est le thème de la miséricorde, c'est ce qui fait le pont entre les deux pontificats. C'est les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire, encore une fois, c'est une mystique pratique. Pratique. Et les jésuites, chez les jésuites comme chez les juifs, Dieu se dit dans les mains, pas seulement dans le cœur ou dans la bouche, mais dans les mains, dans l'action. Et effectivement, pape François va donner beaucoup d'importance aux œuvres corporelles de miséricorde. Donc, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander quelles sont les sept œuvres corporelles de miséricorde. Vous les connaissez toutes par cœur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme on sait tous qu'on va être jugé là-dessus, je pense qu'on a intérêt à connaître par cœur, n'est-ce pas? Bon, et de même, pour les œuvres spirituelles, ce n'est pas la peine que je vous en parle. Si? Bon, il y en a une, c'est facile, c'est enseigner les ignorants, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Il y en a une autre qui est facile aussi, c'est supporter les personnes ennuyeuses, ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bon. Il y a prier pour les pécheurs, les agonisants, les âmes du purgatoire. Il y a consoler les affligés. Il y a pardonner, évidemment, annoncer la bonne nouvelle, corriger les pécheurs. La miséricorde n'est pas une vague tolérance. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui part dans le feu, vous n'allez pas lui dire, oh, après tout, si c'est ton choix, vraiment, c'est super, si on respecte la liberté, c'est génial. Mais il a dit, attention, tu vas te brûler là. Corriger les douceurs, c'est un acte d'amour. Bien sûr, si c'est fait dans la douceur et dans la charité. Hein, c'est tout le problème. Bon. Mais donc les œuvres spirituelles qui viennent compléter les œuvres corporelles, qui elles-mêmes sont le commentaire de Matthieu 25, hein, plus le ensevelir les morts. Bon. Et donc, quelque part, le pape François nous rappelle quelque chose de très concret, c'est que personne ne peut être dispensé de ces œuvres de miséricorde. Et elles se traduisent de façon très concrète, je dirais, dans notre actualité. Hein. La question de l'accueil des migrants, bon ben, c'est sûr que c'est lié aussi à Matthieu 25. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. La priorité donnée aux pauvres, ben, c'est aussi, ben, j'étais nu, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais ceci, j'étais cela, tu es venu me voir. Les pauvres qui nous évangélisent, hein, c'est pas que nous on est là d'en haut pour leur apporter l'habitance dont ils ont besoin, c'est que c'est eux qui nous convertissent au royaume. Et donc c'est complémentaire, mais ça n'est pas en opposition du tout avec le pape Jean-Paul II, puisque je vous ai dit qu'il est rentré au séminaire à cause justement de la figure du frère Albert. Et par exemple, vous savez, quand il y a encore une semaine, j'étais en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la fameuse basilique de Yamoussoukro, qui est un chef-d'œuvre par ailleurs. Hein. Mais il y a eu beaucoup de bonnes âmes pour dire que c'était un scandale d'avoir dépensé tant d'argent pour une église, très bien. Et Jean-Paul II a mis une condition. Il dit, moi je veux bien la consacrer, c'est pas nous qui avons souhaité qu'elle soit là, mais elle est là, on ne va pas la laisser comme ça. On va la consacrer, c'est quand même une magnifique église. Seulement je mets une condition. Qu'on construise un hôpital à côté. Voilà. Parce que je ne peux pas vénérer Jésus dans l'église si je ne le reconnais pas dans ses frères les plus pauvres à côté de l'église. Voilà, et donc, pour finir, voilà, c'est formidable, c'est un miracle. Pour finir, au fond, en quoi sommes-nous dans le temps de la miséricorde? Eh bien, je dirais ceci, nous sommes dans le temps de la nouvelle évangélisation, qui est le fruit de la nouvelle Pentecôte du Concile Vatican II. Et tant des papes Jean-Paul II que François, et même je crois aussi Benoît XVI, ont rappelé que le cœur même de la nouvelle évangélisation, c'est la miséricorde. D'abord, pratiquer les actes de miséricorde. Notre premier témoignage, c'est notre vie. Et ça, tout le monde le comprend. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour comprendre un acte de bonté. Bien au contraire. Parfois, ce sont les non-catholiques qui nous le montrent à nous, les catholiques, ce qu'ils savent dans ce domaine-là. Donc d'abord par nos actes, c'est ce que Jésus dit à Saint Faustine, je te demande de témoigner d'abord par tes actes, comme elle le faisait dans son couvent, où elle parlait peu de la miséricorde avant de recevoir ce message, mais elle la vivait. Deuxièmement, par tes paroles, des paroles de miséricorde. Il y a une manière de parler d'autrui, et même de soi parfois, qui n'est pas miséricordieuse. Et il y a aussi une manière de parler du message évangélique qui ne l'est pas non plus. Jésus dit qu'il donne à ceux qui parleront de sa miséricorde le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Mais alors pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas tous? J'imagine que tous nous avons le désir que le monde entier entende parler de l'amour de Dieu. Et Jésus nous donne une voix royale, parler de la miséricorde de Dieu aux gens. Faites-en l'expérience. D'abord en allant vous confesser, hein, en allant à la messe, en vénérant l'image de la divine miséricorde, en lisant les textes de Saint Faustine, en priant le chapelet de la miséricorde, en méditant sur ce mystère à travers toutes les écritures, toute la tradition de l'Église, tout l'enseignement des papes, et aussi en faisant une expérience à travers vos frères et sœurs dans l'Église, pour à votre tour devenir instrument de cette miséricorde, par vos actes, par vos paroles, et ultimement par vos prières et par l'offrande de votre vie, de notre vie. Car finalement, vous voyez, le don de la miséricorde peut nous conduire jusque-là, par de petites choses à de grandes choses, de belles choses, devenir instrument de la miséricorde de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez remarqué que le monde ne va pas très très bien? Non? Vous n'avez pas remarqué? Bon, tant mieux si vous n'avez pas remarqué. Mais il y en a qui l'ont remarqué quand même. Et au fond, quelle est la réponse de Dieu à ce drame que nous vivons? ce drame de la désespérance, de la division, de la fragmentation de nos idées, de nos personnes, de nos communautés, de nos églises même parfois. Quelle est la réponse de Dieu? Sa seule réponse, c'est sa miséricorde. Viendra le temps de la justice. Il le dit à sa prostituée. C'est maintenant le temps de ma miséricorde, viendra le temps de ma justice. Heureux ceux qui passent par la porte de la miséricorde. Tant qu'il est encore temps, profitons du temps qui passe pour semer l'amour qui ne passera jamais. Et pardon, peut-être que nous n'avons jamais su donner. Voyez, l'offrande des épreuves que nous avons pu vivre, et que nous pouvons offrir pour les autres, pour qu'il leur soit fait miséricorde. Hein, j'ai une amie qui a eu un cancer, avec un long traitement, douloureux, pénible, jeune femme. Et pendant ce cancer, elle a appris qu'un de ses amis prêtres était accusé de graves abus sur deux jeunes filles. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a dit au Seigneur, dans le secret de son cœur, je t'offre mon cancer pour ces deux jeunes filles et pour ce prêtre. Vous voyez, il y a des situations dans notre monde aujourd'hui qui nous dépassent tellement qu'au fond, la seule réponse, elle peut être une miséricorde aveugle, je ne sais pas comment vous le dire, qui s'inscrit dans celle de Dieu lui-même, qui n'a pas besoin de tout comprendre, de tout expliquer. Mais en revanche, on ne peut pas être ni dans le déni, en disant « mais tout va bien, c'est super, c'est vraiment formidable », ou alors au contraire dans le pharisaïsme, c'est les autres qui ont des problèmes, c'est pas moi. Mais ce que Dieu nous demande comme catholiques, c'est d'être solidaires de tous. Et d'abord de Jésus qui souffre sur la croix, mais aussi de tous nos frères, quels qu'ils soient, quelles que soient les circonstances qui les ont conduits peut-être aujourd'hui à commettre les pires atrocités. Dans les pays en guerre, ils sont légions dans notre monde. Le monde ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers ma miséricorde. C'est une invitation qui nous est donnée à tous. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons d'accuser les autres. Demandons à Dieu de faire de nous des instruments de sa paix et de sa miséricorde pour le monde aujourd'hui. En reconnaissant que nous aussi, nous sommes des pauvres pécheurs, et que nous sommes en même temps frères de tous, parce que nous sommes catholiques, de tous, que donc nous pouvons nous laver les mains de rien de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. N'est-ce pas? Et c'est peut-être le plus beau moment que l'Église va vivre, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, si nous y sommes fidèles. Peut-être que vraiment ce sera l'Église des saints, parce que les pauvres pécheurs que nous sommes, Dieu aura fait les icônes de sa divine miséricorde. Demandons cela avec confiance par l'intercession de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II. Jésus, j'ai confiance en toi. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen.
Le temps de la miséricorde divine. Vous venez de suivre une conférence du Père Martin Prader, prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel, une conférence enregistrée le 16 octobre 2022 à Dax lors d'une rencontre de la communauté de l'Emmanuel. Signalons que le père Martin Prader a publié plusieurs ouvrages sur la miséricorde divine et sur le cœur de Jésus. En 2005, il a publié un livre intitulé « Jésus doux et humble de cœur » et en 2016, le livre « La miséricorde, bonne nouvelle pour le monde » aux éditions de l'Emmanuel, un ouvrage préfacé par le cardinal Jean-Pierre Ricard.